Bernard. Oui, et j'ai beaucoup de plaisir de retrouver certains parmi vous ce matin que je n'avais plus vu depuis très très longtemps. Merci de votre invitation. Oui, Sébastien, je le connais. Nous avons usé nos fonds de culotte ensemble sur l'école de Famille Je T'aime, où nous faisions une formation relation d'aide. Et j'ai aussi été le témoin de cette période de sa vie où il avait vraiment la vision de rentrer dans le ministère. Ce n'était pas encore le cas à cette époque-là, où il se préparait pour le ministère. Et c'est pour moi une grande joie aujourd'hui d'être là, de le voir ici avec vous dans cette église et de le voir comment le Seigneur lui a confié un ministère. Donc je vous présente aussi mon épouse, elle s'appelle Bettina. Et elle est de Suisse, mais elle supporte l'Alsace. Et elle a un ministère dans la chanson et dans la musique. Voilà, vous n'entendrez pas aujourd'hui. Elle a un autre ministère un peu plus rare, c'est celui de me supporter depuis bientôt 15 ans. Vous voyez, c'est un grand ministère. Voilà, elle me pardonne au quotidien. Voilà, je lui suis reconnaissant tous les jours pour ce ministère. Et sinon, je veux aussi saluer le pasteur Roland Oswald et son épouse Janine. Dont je me souviens bien, quand j'avais 8 ans, hein, il venait dans la petite salle du restaurant Bender, hein, qui n'était pas une église, hein, et il chantait avec une guitare. Je ne sais pas si tu joues encore de la guitare, hein, et il chantait et il annonçait le Seigneur. Et tu vois, hein, Roland, ses graines, tu vois, le Seigneur n'a pas permis que cette parole soit perdue, puisque aujourd'hui, il y a du fruit que le Seigneur a permis. Et c'était une histoire qui remonte à 40 ans, hein, voilà. Bon, voilà, en tout cas, j'ai beaucoup de plaisir d'être avec vous ce matin. Et je travaille, d'ailleurs, oui, c'est vrai, il y a beaucoup de pasteurs ici. Je suis un peu, je me dis, qu'est-ce que je fais là devant vous, là? Je suis pas pasteur. Mais voilà, j'avais à cœur de vous parler d'amour et de pardon ce matin. Pourquoi? Parce que dans le métier que je fais, je travaille dans un centre pour drogués, alcooliques. J'ai été très surpris de voir que les psychologues n'utilisaient jamais ces deux mots-là. Le mot pardon et amour, c'était des mots qui leur brûlaient la langue. Parce qu'ils disaient, tu comprends, Daniel, ce sont des mots trop connotés spirituellement. Donc on ne parle jamais de pardon, on ne parle jamais d'amour, alors que, bizarrement, ce sont des gens qui ont furieusement besoin de pardon et d'amour. Parce que d'abord, ils ont fait beaucoup de mal. Ils auraient besoin qu'on puisse leur pardonner. Puis ils ont souvent reçu beaucoup de mal des autres. Donc ils auraient besoin d'apprendre à pardonner à eux. Puis beaucoup d'amour, ils en ont souvent manqué dans leur enfance, souvent. Et souvent, ils n'en ont pas donné non plus. Et en fait, ce sont deux choses extrêmement importantes qu'on ne le dit jamais. Alors donc, ce matin, j'aurais voulu lire avec vous un passage où Jésus nous donne une leçon, mais vraiment une leçon appliquée d'amour et de pardon. Et je vais lire moi aussi dans la version Parole Vivante d'Alfred Kuhn, dans Jean au chapitre 8. Alors si vous ne me faites pas confiance, vous avez tout à fait le droit de vérifier dans votre Bible que je ne vous raconte pas des bêtises. Donc chapitre 8, Jean, du verset 1 à 11. Histoire que vous connaissez bien. Quant à Jésus, il se retira sur le mont des Oliviers. Mais dès le point du jour, il revint dans la cour du temple. Et tout le peuple se pressa autour de lui. Alors il s'assit et se mit à enseigner. Les interprètes de la loi et les pharisiens traînent devant lui une femme surprise en train de tromper son mari. Ils la font avancer dans la foule et la placent bien en vue au milieu du cercle devant Jésus. « Maître, lui disent-ils, cette femme a été attrapée en flagrant délit d'adultère. Or, dans la loi de Moïse, nous a ordonné de tuer à coups de pierre cette sorte de personne. Quel est ton avis à toi là-dessus ? » Il lui pose cette question piège dans l'espoir de trouver quelque prétexte pour l'accuser. Pour toute réponse, Jésus se baisse et se met à écrire par terre avec son doigt. Mais ils insistent et ils répètent plusieurs fois leurs questions. Alors il se relève et leur dit « Que celui d'entre vous qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. » Puis il se baisse de nouveau et il continue à écrire par terre. Après avoir entendu ces paroles, ils s'esquivent les uns après les autres, à commencer par les plus âgés, laissant finalement Jésus seul avec cette femme, qui reste là immobile au milieu de la cour du temple. Alors Jésus relève la tête et se tournant vers elle, il lui demande « Eh bien, où sont donc passés tes accusateurs? Personne ne t'a-t-il condamné ?»« Personne, Seigneur, lui répond-elle. » Alors Jésus lui dit « je ne te condamne pas non plus. Tu peux partir. À l'avenir, garde-toi de pécher. Alors, c'est une histoire intéressante, hein, et qui me fait rappeler certains souvenirs de quand j'étais en Afrique. En Afrique, en particulier au Tchad, j'étais un jour au milieu d'une émeute et on en voulait à un accident, il y avait eu un accident et on en voulait au chauffeur de ce voiture qui avait fui. Et comme c'était moi qui venais avec un véhicule de secours, eh bien on a voulu me tuer moi parce qu'il fallait tuer quelqu'un puisque quelqu'un était mort ou en tout cas en train de mourir. Et j'ai vraiment vu que ma vie ne tenait plus qu'à un seul fil à ce moment-là. Parce qu'on avait mis le couteau sous ma gorge, on m'en avait planté deux, trois dans le vêtement, et puis on me crachait dessus, et puis d'autres sont venus encore, et ma vie est tenue de quelques fils, et je voyais qu'on attendait le premier sang, la première goutte de sang qui coule. Et là, alors, ça aurait été le lynchage complet, il y avait encore mon infirmier avec moi, on aurait été tués en quelques minutes, il y avait 1000 personnes alcoolisées autour de nous. En quelques minutes, c'était là. On attendait le premier sang. Et finalement, il y a eu deux gendarmes qui sont arrivés avec des kalachnikovs, ils ont tiré en l'air. Et le Seigneur n'a pas permis. Ça n'a pas été possible. Mais cette histoire m'a laissé le souvenir de ce qui se passe dans cette histoire-là. C'est la même histoire. Tout le monde attend la première pierre. On attend le premier sang qui coule. Parce qu'au moment où le premier sang va couler et que cette femme va tomber, tout le monde va se sentir libéré et tout le monde va jeter des cailloux. Ça ne sera plus un problème, voyez ? Parce que ce n'est pas moi le premier. Mais on attend celui qui va jeter le premier, la pierre, et qui va lui donner la première blessure. Et donc, on peut se poser plein de questions sur cette histoire. La première histoire, première question, c'est cette femme arrive, elle est prise en flagrant délit hein, d'adultère. Hein. Y a un grand problème dans cette affaire, c'est que c'est seulement elle qui arrive. En général, dans ce genre de péché, il faut être deux. Il est où l'autre ? Il est où le mec ? Excusez-moi. Pourquoi il n'est pas dans l'affaire, lui ? Il est tout autant responsable. Il devrait aussi être lapidé. C'était peut-être un monsieur important, voyez, qui, au moment où on l'a surpris avec cette dame, a donné de l'argent aux pharisiens en disant « Non, écoutez, moi, excusez-moi, je vais vous donner 300 pièces d'argent pour rénover le temple, mais moi, laissez-moi échapper. » Alors la femme, elle, par contre, c'était une pauvre nana. Elle n'avait pas d'argent, pas de moyens. Alors elle, il faut lui appliquer la loi dans toute sa rigueur. Ou alors, peut-être même que c'était un Romain. Alors les Romains, ils sont intouchables. Donc voilà, vous ne pouvez pas toucher un Romain. Et le seul qui peut décider de la mort d'un Romain, c'est l'empereur. Donc voilà, ils sont intouchables. Donc le Romain, il a fallu le laisser partir. Voire, c'était peut-être même un pharisien lui-même. Vous vous rendez compte le scandale ? Un pharisien qui ferait l'adultère. Alors le meilleur plan pour éliminer le scandale, c'est d'éliminer la dame. Comme ça, le problème est réglé. Comme ça, elle ne pourra plus en parler. Hein. Comme ça, on lui jette un bon coup de caillou. Et puis le gars en question lui dit, hein, tu évites ça, hein. On t'a réglé le problème une fois, mais tu ne refais pas une autre fois. En tout cas, on ne sait pas qui était cet homme. Mais on sait en tout cas qu'il n'est pas amené dans l'affaire. Il a probablement échappé, pour X raisons, à son propre châtiment à lui. Et c'est uniquement cette femme qui est amenée là devant Jésus. Elle ne devait pas être en bonne forme. Hein. Elle était probablement persuadée qu'elle allait mourir d'une façon atroce, c'est-à-dire avec des gens haineux qui lui crachent dessus et qui lui jetteraient des cailloux jusqu'à ce qu'elle meure. Ça ne devait pas être cool. Et elle était amenée, elle devait être tout à fait tremblante, entourée toute une série de pharisiens qui devaient l'avoir bien saisie par le bras. Et elle était là, elle était amenée devant ce Jésus qu'elle ne connaît pas du tout, dont elle n'a peut-être même pas entendu parler. Et elle comprend, quand on lui pose des questions à ce Jésus, on l'appelle maître, elle comprend que c'est lui qui va tenir sa vie entre ses mains. Et on lui dit, maître, hein, que devons-nous faire ? Mais alors c'est une question piège. C'est une question piège. C'est une question qu'on fait d'ailleurs, qu'on pose aussi aujourd'hui encore, à des pasteurs et à des chrétiens. Est-ce que tu es un légaliste ? C'est-à-dire, oui, jette-lui le caillou, il n'y a pas de pardon, mec, t'as péché, salaire du péché, c'est la mort. Dans ce cas-là, amour, pardon, tu oublies. Hein. Dans ce cas-là, tu as tout un message que tu peux jeter à la poubelle. Ou alors, tu es un libéral. Non, c'est, elle a péché, ouais, mais c'est pas vraiment de sa faute. Elle a besoin d'argent. Et puis d'ailleurs, le mec, on sait pas où il est, tu vois. Non, mais c'est pas trop grave. Non, mais toute cette morale sexuelle, il faut laisser tomber dans les églises. C'est pas vraiment important, vous voyez? Et t'es un libéral. Tu tolères le péché. Tu aimes le péché. Voilà. Et tu vois, non, mais vraiment, je vais plus dans cette église. Un pasteur, il tolère le péché. De toute façon, quelle que soit la réponse de Jésus, oui ou non, il avait tout faux. Soit c'était un légaliste abominable, hein, qui n'avait rien à dire dans l'amour et dans le pardon, soit c'était un libéral qui encourageait les prostituées et le péché et tout ce que vous voulez. Voilà. C'était un bon piège, hein. Franchement, il était bien, bien taillé. Tu appuies sur la trappe, tu te fais avoir d'un côté comme de l'autre. Et là, je suis impressionné par la réponse de Jésus. On voit bien que c'est le Fils de Dieu. Parce que moi, j'aurais commencé à citer Lévitique, machin, je me serais monté sur mon petit cageot de pommes de terre et ça aurait fait une histoire qui n'en finissait plus. Vous voyez? Et Jésus, qu'est-ce qu'il fait? Il écrit sur le sable. J'aurais beaucoup aimé me pencher par-dessus son épaule. Regardez ce qu'il écrit. Moi, je ne lis pas l'hébreu, hein. Mais quand même, j'aurais beaucoup aimé voir ça. Et il écrit, et je suis là, je imagine, je vois tous ces pharisiens qui sont là, ils sont convaincus d'avoir la bonne question, le bon piège. Et Jésus qui ne répond pas, évidemment, c'est comme la souris qui est devant le piège et qui ne veut pas aller manger le morceau de fromage. Vas-y, vas-y, dis-moi, alors, c'est quoi? Et ils insistent. Ils sont excités, il y a cette femme qui doit être tremblante de trouille. Elle est morte de terreur. Et Jésus, tranquillement, il n'est pas dans le stress. Il dessine dans le sable, dans la poussière, il est dit, dans le sol. Ça devait être impressionnant, cette histoire-là. Hein? Et alors, ces pharisiens sont de plus en plus excités. Et finalement, qu'est-ce qu'il leur répond? Il leur dit, seul celui qui est pur a le droit de juger. Seul celui qui est pur et sans péché a le droit de juger. Ça veut dire que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Puisque jeter la première pierre, ça veut dire donner toutes les pierres. Hein, c'est la loi du sang. Waouh! Et là, on voit comment Jésus est le Fils de Dieu, comment il parle d'une façon spirituelle. Et non seulement il lui suffit de dire une phrase, et il y a là une horde de gens dont certains ne connaissent même pas Jésus, ils sont venus comme ça parce que vous savez, il n'y a pas de MP3 et on ne regarde pas des films dans les journaux et dans les télévisions, hein. Donc quand il y a un événement comme ça, on va bientôt lapider quelqu'un, je peux vous dire qu'il y a plein de gens qui viennent pour voir, parce que c'est un événement, hein. Il y a du sang et tout. Les hommes, malheureusement, aiment voir la souffrance des autres. Il y a toujours plein de gens qui viennent. Et j'imagine qu'au fur et à mesure que les pharisiens faisaient monter la pression, il y avait encore d'autres gens qui se sont rajoutés pour écouter, pour voir, pour dire, alors j'espère qu'il y en a un qui va jeter la première pierre, hein. Il va y avoir du spectacle. Et puis, Jésus dit cette phrase, que celui qui n'a jamais péché lui jette la première pierre. Et cette phrase va avoir cet effet impressionnant, elle va toucher le cœur de ces hommes, parce que tous sont là avec les cailloux, certains doivent déjà avoir les cailloux dans la main. Hein. Et tous doivent se dire, attends, est-ce que c'est moi? Si je jette ma pierre, ça veut dire que j'ai jamais péché. Et tous réfléchissent. Et se disent, non, mais c'est pas possible. Ça ne peut pas être moi, parce qu'ils se souviennent tous qu'ils ont tous péché au moins une fois. Et alors ils commencent par jeter les cailloux, les uns après les autres. Et il est dit que ça commence par les plus vieux, jusqu'aux plus jeunes, qui devaient vraiment être excités. Là, ils voulaient vraiment en finir, là. Et puis finalement, ça a dû durer, hein, ça a dû durer 30 minutes. C'est un temps extrêmement long pour cette fille. Et puis finalement, au bout de 30 minutes, ils sont tous partis. Et elle reste là. Elle est tremblante, terrorisée. Elle est passée à deux doigts de la mort. Et elle reste devant Jésus. Et là, Jésus lui dit, où sont passés ceux qui t'accusaient? Où sont-ils passés? Personne t'a condamné? Et elle dit non. Je ne sais pas, ça doit être un miracle. Ils étaient tous là. Il y a à peu près 15 minutes, j'étais morte, quasi morte. Et là, il n'y a plus que toi et moi. Et il lui dit, je ne te condamne pas non plus. Va. Va et recommence, c'est pas grave. Non, c'est pas ce qu'il a dit. Il a dit non. Il a dit, va, mais ne pêche plus. N'oublie pas ce qui s'est passé. Car le péché conduit à la mort. Le salaire du péché, c'est la mort. Et le péché a des conséquences. Mais Moi, je ne te condamne pas non plus. Il y a quelque chose d'extrêmement important dans cette histoire. C'est que Jésus a dit que celui qui n'a jamais péché jette la première pierre. Ça veut dire que, d'une façon absolument logique, dans cette histoire, celui qui aurait pu ramasser la pierre et qui aurait pu jeter la pierre, c'était Jésus. Il avait le droit, hein ? Parce que selon sa propre définition, il était sans péché. Donc lui avait le droit de prendre la pierre et il aurait pu jeter la pierre et il aurait dit « Oui, c'est vrai. Moi, je suis sans péché et moi, je te jette cette pierre parce que ce que tu as fait, c'est abominable. Tu as transgressé la loi de Moïse, tu as transgressé la loi de Dieu, tu as fait le péché et ce péché te condamne, je te jette la pierre. » Jésus ne l'a pas fait. Il a dit « Moi, je ne te condamne pas non plus. » Et si je suis là devant vous ce matin, c'est simplement parce que moi aussi, j'ai compris ça. C'est qu'un jour, Jésus m'a dit à moi « Tu sais, Daniel, tu mérites la mort. Mais moi non plus, je ne te condamne pas. Moi, j'ai payé pour toi. Au contraire, j'ai décidé comme à elle, j'ai décidé à toi aussi de te faire grâce. » Waouh ! Quand j'ai compris ça, j'ai compris quelque chose de nouveau de ma relation avec Dieu. J'ai dit avant, il faut aller à l'église, c'est important, il y a tout ce... Et ce jour-là, j'ai compris que c'est fini toute cette histoire de légalisme. Si je vais à l'église, si j'aime le Seigneur Jésus, c'est parce que ce jour-là, lui, il m'a fait grâce à moi. Et j'ai dit, mais Seigneur, c'est fantastique. Moi, tu ne m'as pas jeté la première pierre, alors que je le méritais. Et tous les autres les auraient jetés après. Donc on voit ici, dans ce texte, que Jésus nous donne une leçon impressionnante d'amour pour quelqu'un qui est pécheur, et qui, pour laquelle la loi de Moïse n'avait pas d'amour. Hein. La loi de Moïse, elle était sèche et directe. Tu feras disparaître ce genre de personnes du peuple d'Israël, et d'une façon terrible. En plus, il n'y avait même pas à discuter, puisqu'il est dit qu'elle était prise en flagrant délit. Seulement en flagrant délit, ça veut dire qu'on a vu le monsieur aussi, seulement ça veut dire pourquoi il n'est pas là. On pourrait discuter longuement encore une fois là-dessus. En tout cas, dans cette histoire, les pharisiens vont s'en aller et ils vont se rendre compte que leur piège est tombé. Leur piège n'a pas fonctionné. Et non seulement ils rentrent chez eux, dépités, mais en même temps, ils sont en même temps accusés par leur conscience. Ils se disent, mais attends là, j'étais en train de venir piéger ce Jésus et ce qui se passe dans ma vie, c'est que je commence à réaliser que je suis un homme pécheur et que je n'ai pas le droit de m'ériger en juge et en distributeur de cailloux sur les gens qui méritent la punition céleste. Et la deuxième chose, c'est que Jésus touche le cœur de cette femme et lui dit « Moi, je te fais grâce. Moi, je te fais grâce. Je pourrais te jeter le caillou, mais je te fais grâce. Vas-y. Va, mais fais attention. Et mets en pratique la parole. Et ne le fais plus. Car ce que tu as fait était destructeur pour toi. Destructeur pour l'autre, d'ailleurs. Mais ce n'est pas le sujet, mais destructeur pour toi. » Et tu en payes les conséquences. D'ailleurs, j'imagine que cette jeune femme, elle va déménager de Jérusalem. Hein. Moi, si j'étais à sa place, je ne resterais pas là. Hein. Elle a failli mourir. Toute la ville sait qu'elle était dans l'adultère. Elle ne reste plus qu'aller très loin, voilà, genre Nazareth, voyez, un endroit d'où rien de bon ne peut venir. Il n'y a pas longtemps, j'étais au Burkina et on appelle les Blancs là-bas les Nassara. Et alors, j'étais dans une église et puis on nous avait invités. J'ai discuté avec les gens et je leur dis « Bonjour, je vous salue, je suis un Nassara. » Ça fait rire tout le monde. Et je leur dis « Vous savez quoi ? Je suis fier d'être un Nassara. » Parce que le mot Nassara vient d'une racine arabe qui dit « Nazaréen ». C'est-à-dire les disciples de celui qui vient de Nazareth, de l'endroit où rien de bon ne peut venir. Et je lui dis « Vous savez quoi ? Je suis super fier aujourd'hui que vous m'appelez Nassara. Parce que c'est vrai, j'en suis un. Je suis un disciple de celui-là, de celui qui vient de Nazareth. » Ça avait bien fait rire les gens à l'époque. Voilà. Alors, pour terminer, je voudrais simplement vous dire que j'ai été touché dans ma vie spirituelle il y a environ 2-3 ans par rapport à ce pardon et par rapport à cet amour lorsque j'étais dans un groupe Torrent de Vie. Je ne sais pas si quelques-uns d'entre vous ont déjà entendu parler de Torrent de Vie. Et là, dans ce groupe, on a mis en pratique ce qu'il est dit dans Jacques. Au chapitre 5, l'épître de Jacques au chapitre 5, je vais vous le lire. Jacques chapitre 5, verset 16, toujours dans Parole vivante. « Prenez l'habitude de vous confesser mutuellement vos péchés et de prier les uns pour les autres afin que vous soyez guéris. La prière fervente d'un homme juste possède une singulière puissance. » Et j'ai été dans un groupe Torrent de Vie où nous étions 6 hommes. Et un jour, on s'est assis tous, on a pris 4 heures, et chacun à notre tour, on a déballé nos péchés devant les 5 autres. Je peux vous dire, ça fait drôle, hein. Ça fait drôle. Parce que là, vous êtes transparent. Et il ne s'agit pas de dire, je te dis pas la moitié, parce que le Seigneur, lui, il les voit. Et vous dites ce qui est sur votre cœur, votre passé, les choses qui vous accusent. Et puis, quand vous avez sorti toute cette saleté, vous vous dites, mais comment est-ce qu'ils peuvent encore me regarder? Comment est-ce qu'ils peuvent encore même m'appeler frère? Et tout à coup, il se lève, il y en a un qui met sa main sur votre tête et qui prie et qui dit, au nom du Seigneur Jésus, tu vois, Seigneur, il a demandé pardon. Seigneur, on lui pardonne ses péchés en ton nom. Et vos péchés sont pardonnés. Alors là, quand j'ai relu ce passage, ça m'a parlé comme si je l'avais lu pour la première fois. Quand j'ai relu ce passage, ça m'a parlé comme si c'était pour moi pour la première fois. Alors je dirais aujourd'hui, pour nous, qu'est-ce qu'il faut retenir de ce que je vous ai dit ce matin? Vous pouvez tout oublier. D'ailleurs, quelqu'un m'a expliqué un jour, et ça doit nous rendre humbles, hein, tous ceux qui prêchent. Il paraît que le dimanche d'après, quand on redemande aux gens qui ont écouté un message, il n'y a que 3% qui se souviennent de ce qu'on a dit. Donc, soyons humbles. Alors, s'il y a 2 choses à retenir, je les dirai maintenant. Première chose, est-ce que nous sommes des mauvais juges? Est-ce que nous, ici, moi, est-ce que je juge ma femme? Est-ce que je juge mon voisin? Est-ce que je juge les gens de l'Église alors que je ne devrais même pas le faire puisque je suis pécheur? Seul celui qui est pur a le droit de juger. Alors je ne sais pas ici dans l'Église de Tabor s'il y a beaucoup de purs, mais moi j'en suis pas. Donc, est-ce que nous sommes des mauvais juges? Posez-vous ce soir la question quand vous êtes devant le Seigneur ou demain matin quand vous ferez votre culte personnel. Priez et dites, Seigneur, si je suis un mauvais juge quelque part, un juge qui n'a pas le droit d'être juge, montre-le-moi, afin que j'arrête de le faire, car je n'ai pas le droit de jeter des cailloux sur les autres, puisque toi-même, tu n'as pas jeté de cailloux sur moi. Donc, première prière à faire, Seigneur, est-ce que je suis un mauvais juge? Et si je le suis, montre-le-moi, ouvre mes yeux spirituels pour que je le voie. Et deuxièmement, Seigneur, rappelle-moi tous les jours que je ne suis qu'un pécheur sauvé par ta grâce. Rappelle-moi tous les jours que toi aussi, tu n'as pas jeté le caillou contre moi, alors que je l'aurais mérité. Rappelle-moi tous les jours que je ne mérite rien, parce que tout ce que j'ai, c'est ta grâce que tu me l'as donné. Il n'y a pas longtemps, j'étais invité dans une réunion, où il y avait 2 orateurs. Le premier orateur, il a parlé pendant 3 minutes, il s'est présenté pendant 3 minutes, il était diplômé de ceci, sociologie, machin, et il avait plein de titres. Je ne me souviens plus de son nom, mais je me souviens bien du nom du deuxième. Et lui, il est arrivé, il a dit, bonjour, je m'appelle Untel, je suis un pécheur et je suis sauvé par grâce. Je me souviens bien de lui. Et aujourd'hui, je le répète, je ne suis rien d'autre qu'un pécheur sauvé par grâce. Et quand je lis ce texte, ça me le rappelle. Donc, peut-être que ce soir ou demain matin, priez et dites, Seigneur, rappelle-moi que je ne suis rien d'autre qu'un pécheur sauvé par grâce. Et c'est au prix de ces 2 prières, de ne pas être un mauvais juge et de se souvenir que nous ne sommes qu'un pécheur sauvé par grâce, que nous allons pouvoir avoir et distribuer autour de nous ces 2 choses tellement importantes qui sont une caractéristique essentielle de l'Église, c'est l'amour et le pardon. Si dans l'Église de Tabor, il n'y a pas d'amour et de pardon, cette Église est vouée à la mort bientôt. Une mort spirituelle, j'entends. Il y a des Églises qui vivent, mais finalement à l'intérieur, il n'y a pas beaucoup de gens vivants, hein. C'est des gens qui viennent montrer leur costume et leur cravate avec leur petit miroir, hein, qui viennent pour des raisons politiques dans l'église. Ah, tu m'as vu, faut que tu votes pour moi, hein. Je suis assistant du maire, d'accord. On peut venir à l'église pour des tas de mauvaises raisons, mais ce sont des églises mortes. Si vous voulez que l'église ici soit vivante, il vous faut développer l'amour et le pardon. Tous les jours, tous les jours, tous les jours, pour tout le monde, pour tout le monde. Je terminerai par une petite histoire. J'ai discuté un jour avec un pasteur qui était pasteur à Troyes, dans le centre de la France, il y a 30 ans. Et au bout de plusieurs années de travail, cette petite église s'était développée et ils sont arrivés à avoir environ 20 de personnes occultes. Et c'était dur, c'était une ville fermée, très catholique, je vous raconte cette histoire qui a peut-être 40 ans, catholique, fermée, très dur. Et ils étaient contents, il y avait une vingtaine de personnes. Et puis, au bout d'un moment, tous les dimanches, venaient des punks à chiens. Trois punks, deux hommes et une femme avec des chiens. Alors, c'était l'époque, hein, ils avaient des machins, ils sentaient mauvais. Les chiens, voilà, aussi, ils se lavaient pas. Ils avaient des espèces de chaînes après à chier. Et puis, tous les dimanches, ils rentraient quand le culte avait commencé. Ça s'asseyait tout au fond. Ils faisaient asseoir les chiens aussi. Et puis, ils écoutaient. Et ils parlaient. Et puis, trois ou quatre dimanches de suite. Et puis, au bout de quelques dimanches, il y a un des anciens qui est venu voir le pasteur qui a dit, écoute, maintenant, pasteur, faut que tu fasses le ménage. Ça va plus du tout. Tu te rends compte, on laisse rentrer des chiens dans cette église. Et ça, toi, tu le sens pas, tu es devant. Hein, mais moi, je suis assis derrière, ça sent, c'est abominable. Tu te dis à ces gens maintenant de rester dehors. Ou alors, ils se lavent et puis ils enlèvent les chiens. Mais on peut pas les recevoir comme ça. Et alors, il a fait ça deux fois, trois fois. Le pasteur a dit non, on peut pas. Il faut accueillir ces gens. Ils veulent rien du Seigneur. En tout cas, ils écoutent, ils viennent écouter la parole. Et finalement, l'ancien est venu et il a dit, écoute, moi, je suis d'accord avec un autre ancien. Et si tu fais pas le week-end prochain partir ces trois personnes, d'ailleurs entre temps ils étaient quatre, il y avait un autre punk qui venait en plus, et il a dit si tu les fais pas partir, on démissionne de ton église avec femme et enfants. Donc ça c'était la moitié de l'église qui s'en allait quoi. Alors le gars est rentré, ce pasteur est rentré dans sa maison, puis il a dit Seigneur, je fais quoi maintenant? Tu te rends compte, ça fait 10 ans que je travaille, on est 20, et puis il y a les deux anciens qui partent, écoute, c'est la moitié de l'église qui s'en va, mais en même temps je peux pas leur dire de s'en aller ces gars-là. Alors ils ont une réunion houleuse et il a dit à ces gars, il a dit, vous savez, dans une église, il faut qu'il y ait l'amour et le pardon. Moi, je vous aime, j'aimerais que vous restiez dans l'église, mais si vous partez, vous pouvez partir parce que je ne vais pas chasser ces hommes et ces femmes. Ils sont partis. Et il a continué à prêcher, il est resté 5 personnes au culte plus 4 punks. Je vous compte pas les chiens. Et vous savez quoi? Sur les 4 personnes qui étaient là, les 4 se sont convertis et les 2 hommes sont devenus des pasteurs. Les 2 hommes sont devenus pasteurs, ils ont construit, ils se sont lancés dans le travail missionnaire, ils ont ouvert d'autres églises dans cette région là-bas. Sur les 4 punks. Hein, ils ont encore des trous dans les oreilles là. Voilà. Mais voilà. C'est pour vous dire que quand on met l'amour et le pardon en premier dans une église, c'est chaud, hein? C'est chaud, hein? Mais le Seigneur alors peut porter du fruit. Voilà, je vais prier avec vous pour terminer. Seigneur Jésus, je te remercie pour l'accueil de nos frères et sœurs ici. Je te demande de bénir tous nos frères et de bénir ta parole, afin que tu puisses toucher les cœurs de tous ceux qui ont écouté cette parole ce matin et que tu puisses nous apprendre, y compris à moi, d'être des gens qui pardonnons et des gens qui restent dans l'amour parce que, Seigneur, tu nous as témoigné l'amour en premier. Merci, Seigneur, pour l'amour que tu m'as donné à moi et parce que tu m'as sauvé par grâce. Amen.